voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la condition des enfants. L'UNICEF s'intéresse, c'est vrai, d'habitude surtout à la condition des enfants dans les pays pauvres et en conflit. Et aujourd'hui, l'UNICEF publie un rapport sur les enfants en France dans les quartiers en difficulté sociale. Plus de 22 000 enfants de 6 à 18 ans ont été interrogés sur leur vie, sur leurs préoccupations quotidiennes. Plus de la moitié d'entre eux ont le sentiment d'un manque d'accès au savoir. 41% d'un manque d'activité culturelle et de loisirs. C'est tout de même étonnant pour la cinquième puissance économique mondiale. Nous allons en discuter avec l'auteur de cette troisième consultation nationale à 6 mois de l'élection présidentielle. Bonjour Serge Pogam.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des inégalités et du lien social et vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, et également au CNRS. Ce rapport de l'UNICEF s'appelle Grande dire en France, un défi pour les enfants et adolescents des quartiers prioritaires. Et donc, il est rendu public aujourd'hui avec beaucoup de résultats intéressants. Également avec nous, Ferdinand Ezembe. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ferdinand Ezembe, vous venez régulièrement dans cette émission. Vous êtes psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil. Vous avez publié notamment « Les adolescents noirs en France » et vous avez développé une écoute particulièrement attentif des enfants. Vous formez aussi des éducateurs sur le continent africain. Et chez vous, les voisins, comment les enfants subissent-ils les crises, les inégalités et les difficultés familiales tout à la fois? Comment se mobiliser aussi pour défendre ceux dont on n'entend finalement jamais la voix? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous les messages, tous vos messages et vos réactions sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Je vous lis des messages, pas mal de réactions. Par exemple, Mahamadou qui est à Bamako, au Mali, nous dit dans son pays, ravagé par la pauvreté et le terrorisme, la plupart des enfants sont obligés d'abandonner l'école pour être de petits marchands, des cireurs de chaussures ou pour mendier afin d'aider leurs parents. Voilà son observation à Mahamadou. Amirdine, qui est dans le nord-ouest de Madagascar, nous poste le commentaire suivant. L'avenir des enfants de familles pauvres est miné et ruiné par des autorités sans état d'âme. Oumar à Yaoundé, ce n'est pas possible pour les enfants pauvres d'échapper à leurs conditions. Le système est verrouillé, il n'y a aucune bourse d'études, aucune allocation, aucun espoir. Un autre internaute également à Yaoundé nous dit que pour lui, les commentaires qu'il lit sur notre page ne sont pas totalement erronés, mais il faut garder espoir. Chaque enfant écrira sa propre histoire, il faudra toujours croire en eux. Élie, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous dit « Moi, pour moi, l'avenir de mes enfants dépend en grande partie de moi-même. En préparant mon avenir, en recherchant la stabilité, en prenant des précautions, je pourrais prévoir un bon avenir à mes enfants. » Bandoumal également nous écrit de N'Djamena, au Tchad, où il nous dit que les enfants des riches sont dans de grandes écoles privées, les enfants de pauvres qui ont eux aussi des rêves, sont toujours à la maison et n'arrivent même pas à manger à leur faim, ni à se faire soigner correctement. On se demande à quoi servent les ONG au Tchad. Vous voyez, vraiment des réactions d'auditeurs qui se sentent concernés par ces problématiques, peut-être plus d'ailleurs qu'en Europe. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Serge Pogam, l'UNICEF publie donc sa troisième consultation nationale. Pourquoi finalement s'intéresser à la France quand on entend les commentaires que je viens de lire en Afrique subsaharienne, quand les enfants sont sous les bombes à Alep ?
Oui, bien sûr, la situation en France est certainement moins tragique et les expressions que nous avons entendues de la part des auditeurs montrent bien la gravité des situations vécues pour tous ces enfants. Mais la situation en France mérite aussi d'être étudiée. En particulier, c'est la première fois que dans une consultation, on arrive à interroger des enfants en étant capable de saisir le lieu de vie, le lieu où ils s'expriment au quotidien. Et donc, on a pu identifier les enfants vivant dans les centres-villes, dans les quartiers périphériques non populaires, les enfants vivant dans les quartiers populaires et enfin dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et nous avons donc réussi à avoir suffisamment de réponses pour pouvoir comparer ces enfants selon leur lieu de vie. C'est une source tout à fait intéressante à exploiter, bien entendu.
Ferdinand Ezembe, vous trouvez qu'on n'écoute pas assez les enfants, ce qu'ils ont à dire sur leurs conditions de vie ?
Je dirais qu'on n'écoute pas assez, c'est pas entièrement vrai, mais peut-être on...
Oui, en tant que psychologue, vous, voilà, évidemment, vous les écoutez.
On les écoute, mais peut-être on n'écoute pas tout ce qu'ils disent. Oui, on les écoute, mais peut-être que les adultes ne font pas suffisamment attention à ce qu'ils disent. Mais j'étais très, très impressionné par les remarques faites par les gens en Afrique. Je veux dire d'emblée que vraiment, quel que soit l'endroit où vous vivez, vos rêves doivent rester valables. Ça, c'est Lupita Nyong'o qui l'avait dit, cette actrice qui vient du Kenya et qui finit à Hollywood. Et ça m'avait frappé en disant, mais j'avais rêvé, j'étais gamine, j'ai rêvé, et aujourd'hui, je suis à Hollywood. Donc, à tous ces enfants qui vivent dans des quartiers difficiles et autres, il faut que leur rêve demeure valable.
Voilà. Et ben on va parler de leur rêve, de leur réalité, justement. Nous leur donnons la parole dans quelques instants avec un reportage d'Alice Milo et les résultats, bien sûr, aussi de l'enquête de l'UNICEF. Vous nous appelez pour nous parler de la condition des enfants aujourd'hui au 33-1-84-22-71-71.
Scheming how to get more from the 16. Big dreams, red stones on my pinky. Big things, second hole by the Clifton Sea Breeze. Take the yacht on the big seas. Taking off in the G6. I got big dreams, paid a loan off of this crib. Big sis still owe me for Christmas Fitz fees. Get my folks out the system. Still waiting on dough on a 15. How many of us are dreamers? Stuck in the office and me mug. Cause you heard that nigga that quit to follow his dream. Got his mama a beamer. If it bothers you, re up. I switch my team up, my green up. You in the club, I swing the club, so tee up. I'm here to clean up while lazy begin put their feet up. We'll miss a spot, you dusty fool. Get the Mr. Clean Touch. Cancel the all talk and no show Felicia's. My hustle subtle, y'all deliberating what I mean by. I'm still buying every sneaker in your dream closet. But only bring them out to see the tongues you lick balls with. I'm evolving, so keep calling me cautious. I'm eating four courses at the Four Seasons Resort. Japanese udon, a dish fit for a god. Jet stream through the fog, same seat as your boss. Two seats in the Porsche, boots scream like a horse. Cool dreams to your boy, pulls in with the tour.
C'est Stojiti, Big Dreams. Ils s'appellent Lucas, Ambre, Amias, Anis, Laura. Ils ont entre 9 et 14 ans. Ils habitent Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, une banlieue parisienne tout proche de Paris. Samedi dernier, ils sont venus, comme chaque week-end, jouer dans la bergerie de leur quartier, qui est une expérience intéressante, qui se situe au pied de leurs immeubles. Et c'est là, au milieu des chèvres, qu'Alice Milo les a rencontrés.
Comment ça va se passer quand je serai grand? La vie, quoi. Quand je vais être père, ainsi de suite, mon travail, les soucis quotidiens du travail, comment je vais faire pour le loyer, ainsi de suite, donc comment faire pour vivre. Quand on regarde les adultes, on regarde les loyers, les trucs, on se dit mais ça va être compliqué à remplir les papiers, les trucs, les bidules. On se dit mais comment on va faire? Ça va être dur, quoi.
J'ai peur de pas être avocate.
De pas réussir.
Oui, voilà. Et aussi de pas avoir une belle maison, un truc comme ça. Après, voilà, c'est tout.
Et pourquoi ça pourrait arriver, en fait?
Bah parce qu'en ce moment, je travaille pas très très bien parce que je suis en difficulté, en fait, à l'école et tout. Bah j'arrive pas trop à travailler parce que mes tables de multiplication, j'arrive pas trop à les faire, en fait. Parce que pour moi, c'est un peu trop dur, donc voilà.
Je suis premier de la classe en tables de multiplication, donc...
J'ai peur de devenir...
éboueur. Pourquoi ça te gêne de dire ça?
Parce qu'à l'école, il y en a qui se manquent des éboueurs, alors que c'est grâce à eux qu'on obtient les villes propres. Moi, je voudrais pas être ça. Mon métier, je voudrais bien être soit médecin ou soit, je dirais, architecture ou poète pour rendre mes parents heureux.
Quelles sont, toi, les difficultés, les choses qui te manquent aujourd'hui, les choses que tu voudrais pouvoir changer pour avoir une plus belle vie ?
Le quartier, j'aime pas trop parce qu'il y a des jeunes de la cité là-bas, là en face. Ils viennent, ils montent la grille et tout pour revenir dans cette cité-là. Après, ils disent que des gros mots, ils font n'importe quoi, ils embêtent tout le monde. Un jour, ils ont volé la trottinette à Laura. Quand ils viennent, ils ont tendance à faire des pétards. Après, surtout vers minuit et tout, nous, personne n'arrive à dormir, même pas les voisins.
Personnellement, j'aime pas trop cette ville. Aller plus loin où c'est tranquille, pas de circulation. Enfin, si, mais pas autant qu'ici. Je vais être dans une campagne, mais dans un village. C'est pour qu'il y a une seule pharmacie, ce sera la mienne.
C'est ça que tu veux faire, la pharmacie ?
Oui, pharmacien.
Est-ce que tu penses, toi, que tu as autant de chance que les autres enfants qui vivent, par exemple, ailleurs ?
En fait, c'est personnel, mais en fait, c'est entre mes parents, parce qu'ils sont divorcés. Avant, on pouvait se prendre beaucoup de choses, mais vu qu'ils sont divorcés, on peut moins avoir des choses parce que c'est divisé en deux, donc il y a deux loyers.
Est-ce que si tu avais une baguette magique, il y a des choses que tu ferais autrement dans ta vie ?
Oui, de revoir une seule journée et ma mère. Ma mère, elle est décédée à cause d'un cancer. Ça fait 2 ans que je ne le supporte pas. Ça a tout changé parce que j'étais en CE1, j'ai déménagé chez ma tante, chez mon père, chez ma tante, chez mon père. J'arrêtais pas de faire des allers-retours. Et après, ici, j'ai raté des évaluations et tout. Et là-bas.
Des évaluations.
Oui, voilà.
Ça t'a mis en retard pour l'école ?
Ouais.
Mais est-ce que tu penses que ça va être difficile pour toi de construire ton avenir ?
Oui, beaucoup. Parce que j'aurai 10 ans, bientôt, dans 3 mois. Il a 60 ans, mon père. Dans 8 ans, il prend sa retraite. C'est à mon tour de travailler. À 18 ans, il faut que je paye un appartement ou une maison. Faut que je fasse mon travail et tout dès que j'aurai 18 ans.
Tu penses que ce sera à toi, à 18 ans, de t'occuper financièrement de ton papa ?
Oui.
Et d'où tu sors cette idée ? Il te l'a demandé ?
Non.
C'est toi qui as fait toute seule les calculs dans ta tête ?
Oui. Ça va être difficile. Et franchement, j'ai même pas envie de faire ça. J'ai envie de continuer mes études, bien sûr. Depuis la mort de ma mère, j'ai vraiment envie de faire médecin. Parce que ma mère, on pouvait la soigner, mais elle est décédée, c'est comme ça. Et j'ai pas envie que ça arrive à la même chose aux autres gens et tout.
Voilà les préoccupations d'enfants de 9 à 14 ans dans un quartier populaire d'une grande capitale développée. On parle pas du tout de ce qu'ils vont recevoir à Noël, par exemple, comme cadeau. Hein. Serge Pogam.
Alors, ce qui ressort effectivement et est assez en lien avec les résultats de cette consultation de l'UNICEF, puisque on voit effectivement l'importance des privations au quotidien. Bien entendu, ces enfants vivent dans des quartiers où il y a un taux de pauvreté élevé, où il y a une forte concentration de chômage, et donc il est assez logique de voir que ces enfants sont aussi en privation sur plusieurs facteurs, non seulement sur le plan matériel, mais aussi d'accès au savoir, d'accès à la santé, d'accès aussi à la culture à travers des différentes activités. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, et on le voit très bien dans ces témoignages, c'est l'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse face à l'avenir. Il y a d'abord un enfant qui dit ceci, j'ai la volonté de réussir pour rendre mes parents heureux. Ça aussi, ça me semble tout à fait fort parce que ça montre le lien très très fort qu'il existe entre ces enfants et leurs parents, entre tous ces liens de proximité qui peuvent exister dans ces quartiers et que l'on a tendance souvent à ne pas voir.
Oui, que vous établissez d'ailleurs comme plus fort que dans les quartiers favorisés d'ailleurs, le lien dans la famille.
Alors parfois. Effectivement, c'est quelque chose tout à fait... un peu inattendu parce qu'effectivement, ils ont plus de famille dans leur quartier que les autres enfants des autres quartiers. Ils s'entendent davantage avec leurs voisins. Ils ont davantage de possibilités de s'adresser à quelqu'un en cas de coup dur, en cas de danger. Et donc, ils se sentent aussi valorisés, très valorisés par leur père et par leur mère. Donc, ces liens sont très, très, très forts.
67% des enfants de ces quartiers se sentent soutenus par leur mère contre 54% pour les enfants des centres-villes.
Alors, ça ne veut absolument pas dire que les enfants des centres-villes sont délaissés par leurs parents, évidemment. Mais peut-être avec
des mamans moins présentes qui travaillent plus, par exemple.
Oui, c'est peut-être ça. Mais c'est aussi probablement parce que les enfants des quartiers défavorisés n'ont finalement pas la possibilité d'exister véritablement en dehors de leur quartier à travers des activités qu'ils font beaucoup moins d'ailleurs que les autres enfants des autres quartiers. Et à l'école, ils éprouvent le sentiment de ne pas pouvoir réussir. Ils sont angoissés de ne pas pouvoir réussir. Et ils ont peur des adultes de façon beaucoup plus importante. Si bien qu'on voit ce sentiment de très forte discrimination, parfois même de harcèlement qui s'opère à l'école. Et donc, finalement, la famille constitue finalement le refuge et le quartier également.
Ferdinand Ezembe, comment vous réagissez par rapport à ces témoignages d'enfants? Étonnante maturité aussi pour leur âge et dominée par une inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport à la violence aussi.
Paradoxalement, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Il y a quelques années, on posait la même question à des gamins de quartiers défavorisés. Ils disaient qu'ils voulaient être footballeurs, qu'ils voulaient être chanteurs, qu'ils voulaient gagner facilement leur vie. Qu'est-ce que j'écoute là? Des enfants qui veulent être pharmaciens, architectes, médecins. Ça veut dire qu'il y a de l'ambition chez ces enfants et qu'il y a quelque chose de très rassurant parce que le pire pour un enfant, c'est de ne pas avoir des ambitions. C'est de devoir reproduire le même modèle. Ils ne veulent pas être éboueurs. Alors, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de la société maintenant de permettre à ces enfants de réaliser leurs ambitions. Et honnêtement, je suis très, très ravi parce que pendant des années, on a travaillé dans ces quartiers et on se rendait compte que les enfants n'avaient pas d'ambition. Et ils voulaient être comme leurs voisins, ils ne voulaient pas faire d'études supérieures, ils pensaient que les études, ça s'arrêtait au BEP ou bien au bac pro. Et là, il y a des enfants qui disent « je veux être architecte, je veux être médecin, je veux être… » Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un gap par rapport à leurs parents et qui sont ambitieux. Et je pense que c'est… Moi, ça me donne beaucoup d'espoir.
En même temps, le rapport de l'enquête de l'UNICEF sur ces 22 000 enfants, les enfants ont très tôt conscience, en tout cas ceux qui sont dans les quartiers défavorisés, des inégalités entre eux d'appartenir à une population moins favorisée.
Alors c'est ça qui aussi est un élément très très fort de cette enquête, c'est que très tôt le sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés dans le quartier, mais aussi d'une façon générale en France, cette proportion est beaucoup plus forte dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans les autres quartiers. Et donc ça aussi, ça me semble, c'est un message qu'il faut entendre.
Pour reprendre les chiffres, ils sont deux fois plus nombreux à estimer que leurs droits ne sont pas respectés par rapport aux enfants dans les centres-villes. Les enfants privés d'activités extrascolaires aussi ont quatre fois plus de risques d'être angoissés de ne pas réussir à l'école.
Alors, ça aussi, c'est quelque chose vraiment tout à fait intéressant à relever parce que de plus en plus, les enfants exercent beaucoup d'activités. Il y a peut-être même une surenchère en termes d'activité. Les enfants sont hyper occupés d'une façon générale. Mais quand on regarde bien, il y a des inégalités très fortes entre les enfants. Et malgré tout, exercer une activité, ça peut coûter assez cher. Parfois, il faut un équipement, que ce soit pour la musique ou pour le sport, etc. Et les enfants donc, de ces quartiers ont une pénalité beaucoup plus élevée donc, que les enfants des autres quartiers. Donc ça me semble vraiment important et ça a des incidences, y compris sur l'intégration scolaire. Donc les écarts, les inégalités se creusent à travers toutes ces formes finalement d'activité à l'extérieur du quartier.
Et on le rappelle, dans un pays où on a plus de 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 600 euros par mois, donc on fait le calcul de ce qui peut rester pour des enfants. Vous restez avec nous, Serge Spogam, Ferdinand et Zembe. On parle de ce rapport de l'UNICEF concernant la France, mais bien sûr, les voisins et les voisines, appelez-nous pour nous parler de la condition des enfants, de leur évolution dans votre pays, au 33 1 84 22 71 71. Les enfants ne votent pas et sont peu présents dans les médias. L'émission leur est consacrée aujourd'hui.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins. L'UNICEF rend public aujourd'hui sa troisième consultation nationale sur les enfants des quartiers prioritaires en France. Au total, 22 000 enfants de 6 à 18 ans interrogés sur leur vie, sur leurs préoccupations. Et c'est l'occasion de mesurer l'écart aussi et les inégalités entre les enfants de ces quartiers prioritaires et par exemple des centres-villes. Et chez vous, comment évolue la condition des enfants? Comment se mobiliser aussi pour défendre ce dont on n'entend finalement jamais la voix? 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous êtes parent ou si vous travaillez pour la cause des enfants. Nous en discutons avec Serge Pogam qui est sociologue et vous avez publié, vous êtes à l'origine de cette enquête, hein. Vous êtes l'auteur de l'enquête de l'UNICEF qui s'appelle Grandir en France, un défi pour les enfants et adolescents des quartiers prioritaires, avec 5 recommandations d'ailleurs pour le futur président de la République, on va en parler. Ferdinand Ezembe, vous êtes psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil. Nous donnons la parole à un auditeur. Brahima nous appelle de Ouagadougou, au Burkina. Bonjour Brahima. Brahima, j'ai l'impression que nous avons de petits problèmes avec la ligne téléphonique. Vous êtes père de 2 enfants. Nous vous écoutons. Allons, vérifions que la ligne téléphonique fonctionne.
Oui, c'est ça Emmanuel. Je suis moi-même père de 2 enfants. Mmh. Et je vais vous dire tout.
Bon, on a un problème de ligne téléphonique. Je pense qu'il faut que vous sortiez de la pièce où vous êtes. Nous essayons bien sûr de vous rappeler. En attendant, je voudrais lire le message de Fatou qui est à Cotonou, au Bénin. Il nous dit, alors il nous livre son témoignage. Il nous dit qu'il a eu une enfance difficile où les pénuries étaient fréquentes. Cela m'a forgé le mental. Je me suis toujours efforcée à être très bon dans mon parcours scolaire et universitaire. J'ai obtenu des opportunités de bourses d'études et de formation que je n'ai pas pu saisir. J'ai finalement, nous dit Fatou, compris que l'élément argent est tout de même indispensable dans l'accomplissement de certains de nos rêves. Je suis donc la preuve que, faute de moyens, on peut voir ses ambitions et ses rêves s'envoler. Ça, c'est par rapport à ce que vous nous disiez au début de l'émission. Ferdinand, vous qui continuez de dire qu'il faut avoir des rêves, je ne souhaite à aucun de ma progéniture de vivre la même chose que moi. L'avenir au Bénin s'avère de plus en plus incertain. Alors je me pousse chaque jour à faire mieux pour offrir des conditions de vie favorables à mes futurs enfants. C'est vraiment un cri du cœur, hein, le cri de Fatou. C'est vrai sur les inégalités, c'est vrai sur les rêves et c'est vrai aussi sur les réalités qui rattrapent les rêves.
Oui, mais j'insiste parce que j'ai été dans des quartiers difficiles et très pauvres en Afrique. Et j'ai vu aussi dans ces quartiers-là des initiatives. J'ai vu des jeunes qui s'entraident, qui ont des organisations, qui font de l'accompagnement scolaire, qui créent, qui sont dans des associations avec des adultes et qui sont très positives. Mmh. Je crois que le monde est trop envahi d'idées négatives.
C'est ce qu'on appelle la résilience.
Voilà, c'est ça.
Et surmonter, quartier, dépasser les barrières.
Dépasser, voilà, c'est ça. Et il faudrait qu'ils regardent autour d'eux, hein, des gens qui s'en sont sortis dans des conditions très difficiles. Et que l'argent ne fait pas le bonheur, ma chère. Ils participent, mais tout n'est pas dans l'argent.
Alors, on donne la parole à Neftali qui nous appelle de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour, Neftali.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Merci de nous appeler et bravo parce qu'il est extrêmement tôt chez vous en Haïti. Vous êtes journaliste, je crois que vous êtes en train de faire un reportage sur les enfants des rues en Haïti. Vous avez souhaité nous faire part de ce que vous voyez en Haïti.
Surtout des questions, en fait. Oui, c'est un peu difficile car il y a tellement d'enfants des rues qui sont en bas âge, il y a des enfants de 6 ans jusqu'à 18 ans en Haïti.
Oui.
Vous savez, pour faire ce reportage avec ces enfants, en les regardant ainsi, c'est très, très difficile émotionnellement. J'aimerais vraiment savoir comment gérer ça pour ne pas les montrer que je pleure. Et pourtant, je ne peux même pas leur sortir de là. Je voulais surtout les faire connaître leurs droits et pourquoi pas un jour, pour qu'ils puissent revendiquer de ça.
Oui. Vous vous sentez prisonnière de vos émotions quand vous les interrogez et en fait, vous souhaiteriez savoir comment gagner leur confiance, comment arriver à les faire parler de leurs conditions de vie. C'est bien ça, hein, Neftali ?
Oui, d'aborder.
Vous posez une bonne question, parce que justement, comment était réalisée l'enquête de l'UNICEF sur ces 22 000 enfants? Comment on fait pour faire parler des enfants? Parce qu'on sait que les enfants répètent beaucoup ce qu'ils entendent. Donc, les questions peuvent être finalement très directives et modifier ce qu'ils ont réellement à dire. On donnera aussi la parole à notre ami psychologue. Quelle a été la méthodologie de l'UNICEF?
Alors là, c'est simple. Il y a un livret qui a été préparé de longue date, hein, avec des questions toutes simples. On ne va pas faire la liste ici. Il y a une batterie de questions toutes simples où on doit répondre de façon aussi très simple en cochant des cases qui sont indiquées aussi par des smileys. Enfin bon, on a véritablement fait cela de façon à ce qu'on puisse rentrer très facilement dans le remplissage de ce livret. Alors évidemment, quand on s'adresse à des enfants qui ont 6-7 ans, c'est un peu plus difficile parfois de comprendre malgré tout la logique. Et là, il y a des enseignants, des éducateurs qui, dans les écoles, dans les centres de loisirs, les accompagnent pour leur expliquer parfois qu'est-ce que ça signifie.
Ouais. Vous insistez sur la simplicité des questions.
Tout à fait. C'est vraiment la simplicité, parce qu'il faut être tout à fait accessible. Mais par rapport à l'intervention de cette auditrice de Haïti, moi, je suis effectivement aussi frappé par cette importance des enfants des rues dans beaucoup de pays que je fréquente en Amérique du Sud ou ailleurs. Et ce qui me semble vraiment le but de la lutte, me semble-t-il, contre ce phénomène, c'est de lutter contre la banalisation. Parce que quand on est dans ces pays, on voit effectivement ce phénomène tellement couramment qu'on finit par passer à côté de ces enfants sans ne rien faire. Parfois, on voit même des enfants qui sont en état grave de danger, qui sont drogués, qui sont avachis au milieu de la rue, et les passants se promènent sans s'arrêter, sans regarder, sans daigner les regarder. Et ça, je crois que c'est vraiment le travail que l'on doit faire. Et je pense que UNICEF concourt aussi à travers toute cette mobilisation à faire en sorte...
En finançant des associations de terrain, notamment. Hein.
Oui, en faire en sorte que finalement, ce ne soit pas normal, que ces enfants ont aussi des droits et qu'il faut les respecter.
Nous devons nous indigner sur le recueil de la parole des enfants, qui est vraiment la base, justement, pour créer l'indignation, créer la révolte. Volte aussi et remettre la pression sur les États et sur la politique. Ferdinand Ezembe, pour répondre à la question de Neftali qui se sent un peu démuni en tant que journaliste pour travailler sur les enfants des rues.
Oui, honnêtement, je n'ai pas d'expérience sur les enfants de rue en Amérique latine ou à Haïti. Mais l'expérience que moi j'ai dans les pays d'Afrique noire, c'est qu'il y a une énorme sensibilisation quand même des gens par rapport aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant est encore quelque chose de très, très sacré et il y a une attention. Et beaucoup de gens s'organisent pour donner quelque chose en avenir aux enfants. Et j'étais au Mali avec une Colombienne qui était très étonnée de voir autant d'enfants dans la rue et très peu de criminalité. Et me disait, pourquoi est-ce que les enfants ici ne s'entretuent pas comme en Colombie?
Il n'y a pas les gangs d'enfants,
voilà.
Des gangs d'enfants, voilà.
Elle était très étonnée. Et on est resté vers 1h du matin à Bamako avec cette Colombienne. Elle était très impressionnée par le fait que les enfants étaient là. Personne ne les agressait.
C'est en train de changer, notamment la violence des enfants à Kinshasa, poussée par l'extrême pauvreté.
Oui, mais c'est spécifique, l'expérience du Congo-Kinshasa avec les guerres qu'il y a eu là-bas, ce n'est pas représentatif de la situation des enfants en Afrique noire.
Neftali, merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous livrer votre ressenti par rapport aux enfants des rues en Haïti. On accueille Brahima de nouveau avec une ligne téléphonique rétablie, j'espère, à Ouagadougou. Bonjour Brahima, rebonjour, nous vous écoutons.
Allô ?
Oui, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne, Brahima.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous êtes en direct.
Oui, par rapport à cette histoire des enfants des pauvres, je crois que c'est clair. Il me semble que leur sort est bien scellé.
malheureusement pas la condition de leurs parents. Je suis moi-même un vrai père et deux enfants.
Je suis désolée, la ligne téléphonique se dégrade. Décidément, on n'a pas de chance avec la ligne avec Ouagadougou. Je voudrais revenir sur l'enquête de l'UNICEF avec vous, Serge Pogam. Vous avez insisté, il y a tout un chapitre qui est consacré à la stigmatisation et aux discriminations ethniques et religieuses. Pourquoi cela ?
Tout simplement parce que c'est une expérience que font les enfants de ces quartiers, c'est-à-dire la différence. Ils se sentent différents parce qu'ils se sentent montrés du doigt quand ils habitent ces quartiers. Et là, effectivement, on a une proportion beaucoup plus importante dans ces quartiers prioritaires de la ville d'enfants qui ressentent cette discrimination chaque fois qu'ils sortent de leur quartier. Discrimination qui a lieu aussi dans le système scolaire, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux à éprouver ce sentiment dans le système scolaire. Et ça va bien sûr en lien avec le sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés, évidemment. C'est tout à fait logique. Je dirais que ce phénomène n'est pas totalement nouveau, parce que quand même, la discrimination dans les quartiers, y compris dans les quartiers populaires où il n'y avait pas autrefois cette proportion importante d'enfants d'origine étrangère.
Il y a une discrimination sociale.
Il y a une discrimination sociale. Bien sûr, aussi. Et il faut relire même les passages de Louis Guilloux, cet écrivain de milieu populaire qui vivait dans les quartiers populaires dans son enfance à Saint-Brieuc, qui raconte effectivement que lui-même se sentait discriminé parce que vivant justement dans un quartier pauvre. Et il disait d'ailleurs que chaque fois qu'on me faisait ces critiques, quand je sortais de mon quartier, j'avais envie d'y retourner le plus vite possible parce que là, je me retrouvais parmi mes semblables.
Ouais. C'est ce qui rétrécit l'univers d'un enfant de quartier défavorisé, justement. Le fait d'avoir besoin de ce cocon familial du quartier, parce qu'ailleurs, on se sent discriminé.
Absolument. On se sent discriminé. On n'a pas sa place, finalement, dans la société. On la retrouve.
Donc, on vit dans un monde rétréci, finalement.
Oui, parce que le quartier, malgré le fait qu'ils sont tout à fait conscients que ce quartier a une mauvaise réputation, qu'il est dangereux, où il y a beaucoup de violence, malgré le fait qu'ils savent qu'il y a des armes qui circulent, dans certains cas, on le voit, c'est des questions qu'on a posées. Malgré tout cela, c'est quand même leur seul refuge et ils y tiennent, malgré tout, parce que c'est à travers ce quartier qu'ils existent.
Ferdinand Ezembe.
Oui, alors sur la question des discriminations, c'est pour ça que moi j'ai travaillé en il faut nommer les choses et que ces enfants des quartiers soient fiers de leur culture, qu'ils soient fiers d'eux et que le regard qui est posé sur eux ne soit pas un regard qui les infériorise. Ce que j'ai dit, les enfants ils sont noirs, vous êtes fiers d'être noirs. Et ce qu'ils doivent aussi observer, c'est que leur culture a influencé une grande partie de la culture urbaine actuelle. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, la culture, il y a quelques années, on sous-estimait le rap, mais le rap est devenu l'une des cultures qui influence tous les quartiers.
Et probablement la musique la plus universelle aujourd'hui.
La plus universelle. Donc, moi, je dis à ces jeunes, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à votre culture. Il faut s'assumer. Et le travail que j'ai fait avec beaucoup de jeunes, ils découvrent avec leurs racines et leur fierté aujourd'hui que les choses ont été plutôt positif pour eux et il n'y a pas de raison qu'ils soient complexés quand ils vont dans les centres-villes.
Alors on est à 6 mois de l'élection présidentielle. L'UNICEF formule 5 recommandations à l'issue de cette enquête qui a interrogé plus de 22 000 enfants en France. On en parle juste après. Bonhomme, ça sera Deluxe et Nkea. Who are you to walk this far? Don't you see? Presence, Lord. This captive fellow, as you enter the place, everybody they look you like say you they crazy because you be. C'est Deluxe et Neka, bonhomme, une jolie chanson. On est à 6 mois de l'élection présidentielle, je le disais, et évidemment, le rapport de l'UNICEF qui est rendu public aujourd'hui sur la condition des enfants en France est aussi destiné à tirer une forme de sonnette d'alarme. Vous nous appelez si vous êtes en région parisienne ou ailleurs au 33 84 22 71 71. Arlette nous appelle de Paris justement. Bonjour Arlette.
Bonjour Emmanuel.
Vous souhaitiez nous faire part d'une révolte qui vous assaille à l'idée de certaines images dans les rues de la capitale française.
Voilà. Je me promène très souvent au boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain. Je vois des familles entières sur les trottoirs. Et là, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants. On leur donne des vêtements. Bon, ça, apparemment, ils n'en ont vraiment pas besoin. Des jouets, ça, je trouve ça super bien, ou des bouquins, des petits livres pour enfants. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas français. Je me demande ce qu'ils font toute la journée. Et que pouvons faire pour eux pour essayer de, je sais pas, leur apprendre un peu la langue déjà.
Il s'agit d'enfants roms, voilà. Hein, je pense.
Oui, je pense. Oui.
Oui. Tout à fait. Ça, c'est une vraie question. Et effectivement, il y a quand même pas mal de citoyens en France qui s'interrogent parce qu'on a l'impression aujourd'hui que ces enfants-là n'ont pas accès à l'école, hein, ce qui semble vérifié, et que ça va bien au-delà de la situation d'enfants issus de l'immigration ou migrants qui sont stabilisés et qui ont un logement en France. Pour ces enfants-là, qui sont complètement itinérants, semble-t-il.
Oui, alors ces enfants d'ailleurs ont échappé aussi à la consultation, hein, oui. Puisque par définition, ils n'ont pas de logement stabilisé. Donc nous, on a fait des enquêtes dans les quartiers prioritaires de la ville, ce qui est déjà un grand progrès par rapport à la connaissance que nous en avions avant. Mais là, évidemment, ça nous échappe. Et je crois que les conclusions de ce rapport au sens de toutes les questions de la discrimination, elles vaut. Toutes ces conclusions valent aussi pour ces enfants, bien entendu aussi, parce que ces familles sont victimes également d'une très très forte discrimination, si bien que même les structures ne semblent pas suffisantes pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions.
Quand vous voyez que le candidat François Fillon, qui est largement vainqueur de la primaire à droite et qui a été interrogé sur son programme pour les quartiers sensibles et les cités, quand on l'interroge sur les mesures contre les mesures qu'il prendrait pour essayer d'aider ces populations-là, il répond par des mesures contre le chômage, hein, à l'échelle nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ces mesures, tout d'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le programme social n'apparaît pas. On n'a pas pour le moment, en tout cas, de mesures, si ce n'est de croire qu'il suffira de faire baisser la courbe du chômage pour que tout aille mieux et le social se développera normalement beaucoup mieux. Enfin, il y aura beaucoup plus de ressources, etc. C'est sans doute vrai que les situations sont plus faciles quand on est en situation de plein emploi, mais cela fait quand même maintenant presque 40 ans qu'on n'est pas dans ces situations de plein emploi. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que quand même, il y a à s'inquiéter vraiment de l'avenir de ces quartiers. On le fait, mais de façon peut-être pas satisfaisante. Alors, il faut réfléchir, et c'est la raison pour laquelle ce rapport nous conduit à réfléchir sur la façon d'intervenir, notamment auprès de ces enfants.
Justement, formuler 5 recommandations, on peut les citer.
Donc, ça, c'est UNICEF qui a pris ces décisions de mettre l'accent. C'est investir d'urgence pour les tout-petits, combattre avec les enfants et les jeunes les obstacles à l'accès au savoir.
Les tout-petits, c'est la crèche, hein, la scolarisation avant 3 ans.
Les haltes garderies, etc. Qui, d'ailleurs, quand on regarde bien, sont beaucoup moins nombreuses dans ces quartiers-là que dans les autres quartiers. Hein. Là aussi, en termes de services, il y a des inégalités considérables d'un quartier à l'autre. Et même parfois d'une commune à l'autre, évidemment. Combattre avec les enfants et les jeunes les obstacles à l'accès au savoir et aux loisirs. Là, on a vu ces inégalités considérables en termes d'exercice d'activité. Alors, ça, c'est la question du coût qu'il faut prendre en compte, permettre peut-être la gratuité dans certains cas pour l'exercice de ces activités, pour l'accès au savoir et aux loisirs. Garantir des ressources matérielles et humaines pour une éducation de qualité pour tous. Là, bien sûr, c'est la question de l'école. Permettre à ces enfants d'avoir confiance dans l'avenir, de ne pas être angoissé. Peut-être que tout le... Oui, vous voulez m'arrêter?
Non, je vous en prie, allez-y.
Donc, lutter contre cette forme de discrimination dont on n'a parfois pas totalement conscience qu'elle puisse exister dans le système scolaire. Or, c'est le cas. Donc, ça interroge bien sûr la façon de conduire l'éducation, une éducation de qualité pour tous. Et la quatrième et la cinquième, rapidement, renforcer la formation des enseignants pour une réussite scolaire de tous les enfants. Bien entendu, cela conduit à rendre obligatoire cette formation continue des enseignants et de donner plus de place aux aspects pédagogiques, tant dans la formation initiale que continue. Et enfin, un système éducatif qui cible et soutient financièrement les enfants les plus vulnérables. Voilà des propositions simples, mais qui militent pour qu'on s'y attelle au plus vite possible.
Et notamment, l'UNICEF mentionne sortir de la logique de territoire, finalement, mais octroyer de l'argent par tête d'enfants vulnérables, comme c'est déjà le cas, par exemple, dans des pays comme les Pays-Bas. Ceci dit, dans la politique, le programme de François Fillon, là aussi, il dit qu'il faudrait probablement sortir de la politique sociale de territoire. Donc, on peut imaginer que ça sera peut-être un débat dans les mois à venir. Nous accueillons Serge qui nous appelle de Paris au 33 1 84 22 71 71. On arrive bientôt au terme de cette émission. Bonjour Serge, vous êtes éducateur.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité. Écoutez, moi je suis éducateur ici à Paris et en fait je voulais quand même revenir sur un aspect où en fait on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire que le fait que quand un enfant qui a souffert dans son enfance grandit et qu'après il pose certains actes, on ne regarde pas en fait, on ne fait pas attention par rapport à ça, qu'il ait réussi ou pas. Hein. Mmh. Ça ne change rien, mais tous les enfants, en fait, qui ont eu une enfance très difficile, même en étant millionnaires, ont toujours des séquelles plus tard. Et ça, vos invités, en fait, tout ce qu'ils ont dit, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais cet aspect-là, on n'en parle pas beaucoup.
Je pense que Ferdinand Ezembe veut réagir, qui est psychologue, Ferdinand.
Pardon.
Oui. Sur le vécu des enfants une fois adultes.
Oui, mais c'est compliqué parce que ceux qui ont réussi aussi ne veulent pas qu'on revienne sur leurs séquelles du passé. Ils disent, mais voilà, c'était une étape, moi j'ai de travailler avec des gens qui ont réussi, qui étaient en prison. Il dit, mais chaque fois, on me réinterroge sur mon passage en prison. Oui, c'était dû, j'étais en prison, j'ai fait des bêtises, mais maintenant, je veux passer à autre chose. Donc, c'est aussi très compliqué de revenir souvent sur leur passé, quoi.
Effectivement. Allô?
Oui, Serge?
Oui. En fait, ce que je voulais dire en tant qu'éducateur, c'est-à-dire que moi, lorsque ces jeunes-là sont... Moi, je suis à la PJJ. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces jeunes-là, lorsqu'ils sont condamnés par rapport aux actes qu'ils ont posés, on ne regarde pas, en fait, ce que ces enfants ont subi. Et moi, au départ, justement, je regardais, j'avais plus accès au côté, pénal. Or, ces enfants-là, c'est des enfants qui souffrent énormément. Pour moi, c'est des victimes. Et c'est pour ça que j'ai une autre vision par rapport aux jeunes, ce qu'on appelle ici en France des jeunes délinquants.
Oui, parce que vous travaillez à la protection judiciaire.
Voilà, c'est-à-dire que c'est des enfants qui souffrent énormément et qui sont désocialisés. Et quand on parle de ces enfants, on ne regarde pas aussi les familles derrière qui elles-mêmes vivent un drame énorme, énorme. C'est-à-dire qu'on parle des enfants parce qu'effectivement, ça touche tout le monde parce que ce sont les enfants. Mais regardons plutôt, avant ce qui s'est passé.
Oui. En général, la justice quand même en tient compte dans les dossiers. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Serge. Il faudra évidemment revenir dans les mois qui viennent à l'occasion de la campagne présidentielle et donner la parole à des éducateurs tels que vous, parce que ça fait partie tout de même des meilleures connaissances de la jeunesse et des enfants aujourd'hui et des souffrances dans certains milieux. Un mot de conclusion, Ferdinand Ezembe?
Oui, je voulais revenir quand même en complément, si on peut mettre une sixième conclusion par rapport à ce rapport.
Oui, mais bien sûr, vous avez le droit.
C'est de travailler sur le rôle des familles. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans des zones où il y avait beaucoup d'activités mises en place, mais les familles n'y allaient pas, les enfants n'y allaient pas. Mmh. Et on s'est rendu compte que les parents n'étaient pas informés, ni même formés à mener son enfant dans des activités gratuites. On avait mis en place un ensemble d'activités gratuites, sorties au musée, des vacances, des activités de musique et tout. Les enfants traînaient dans la rue, n'y allaient pas. Alors, parce que les parents n'étaient pas derrière eux pour les inscrire et obliger à leur enfant d'y aller. Mmh. Donc je pense que si on travaille sur les familles, finalement, il y a beaucoup de dispositifs gratuits que l'État a mis en place dans ces quartiers et dont les enfants ne s'approprient pas parce que derrière, les parents ne sont pas là.
Oui, donc refaire du lien entre les familles et ces enfants.
Et ces enfants pour qu'ils profitent.
Merci beaucoup, Ferdinand Ezembe, psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil. Vous avez publié Les adolescents noirs en France aux éditions Cartala. Serge Pogam, le rapport de l'UNICEF est consultable sur Internet. Grandir en France, un défi pour les enfants et adolescents des quartiers prioritaires. Il est rendu public donc à partir d'aujourd'hui. Merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Minéran, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Demain, 7 milliards de voisins. Charlie Dupiot présente l'émission. Elle sera consacrée aux compétitions de jeux vidéo où comment des jeunes, sans sortir de chez eux, devant leur écran, gagnent de l'argent, se forgent une incroyable notoriété internationale dans un monde tout à fait à part, il faut bien le dire, le e-sport. Il paraît qu'on dit l'e-sport. Vous aurez la parole si vous faites partie de cette bulle. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et vous pouvez aussi nous contacter à 7 milliards@rfi.fr.